when it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Bonsoir à tous, c'est très heureux de vous retrouver comme chaque soir dans Soir Info. Très bon début de semaine à tous nos téléspectateurs. Comme chaque soir, bien sûr, on est ensemble sans aucune publicité jusqu'à minuit. On va largement aborder ces très fortes tensions au Proche-Orient entre Israël et l'Iran. Vous avez suivi cette actualité brûlante, c'est le cas de le dire, tout le week-end. On va en discuter avec Léa Landman. Bonsoir, chère Léa, géopoliticienne. Merci d'être présente. Merci à Georges Fenech, notre ami consultant, ancien magistrat, d'être présent également. Bonsoir, cher Georges. Gabrielle Cluzel, journaliste, rédactrice en chef à Boulevard Voltaire. Bonsoir, Gabrielle. Et enfin, bonsoir à Jean-Sébastien Ferjou, directeur d'Atlantico. Bonsoir. Israël, donc, réfléchit à sa réponse à l'Iran après l'attaque sans précédent menée par Téhéran contre l'État hébreu dans la nuit de samedi à dimanche. Le cabinet de guerre israélien s'est réuni aujourd'hui autour du Premier ministre Benjamin Netanyahou pour décider des représailles à apporter. Une première communication en début de soirée, elle est venue du chef d'état-major de l'armée israélienne de Tzahal, Alevi, qui a promis une riposte lors d'une allocution devant les soldats. Écoutez-le.
Nous regardons vers l'avenir, nous envisageons nos prochaines actions et ce lancement de tant de missiles de croisière et de drones dans le territoire de l'État d'Israël sera accueilli par une riposte.
Et là, Landman, on notera, on a vu sur cette image, est-ce un détail ou pas? En arrière-plan, cet énorme avion, c'est un F-35 furtif conçu pour les attaques au sol. Faut-il y voir un signe, ça? L'avenir nous le dira. Oui, un premier commentaire?
Oui, la conférence de presse est faite à Nevatim. Nevatim, la base militaire, la base de l'armée de l'air qui a été touchée. Enfin, certaines infrastructures ont été touchées, mais qui est déjà opérationnelle. Donc vraiment, le message était clair. Vous n'avez rien réussi à faire aux Iraniens. Une réaction, évidemment, c'est que ce qu'on entend aujourd'hui surtout, c'est les pressions internationales.
La communauté internationale plaide pour une non-escalade, mais Israël est dans cette logique de combat.
D'abord, une logique de combat, on va y arriver tout de suite, mais je voudrais qu'on parle de la logique internationale qui demande une riposte ou une réponse diplomatique. Alors, Israël aurait pu accepter une réponse diplomatique si tous les pays occidentaux, et probablement les pays arabes, avaient dit « Ok, très bien ». On met en place cette coalition dont on parle et maintenant on va devenir sérieux avec la pression diplomatique sur l'Iran. Ce qui n'est pas arrivé depuis 15 ans en fait. Il n'y a pas vraiment de réponse diplomatique, donc on doit demander une réponse diplomatique sans s'aligner. Et ça c'est très compliqué parce qu'Israël va devoir faire un travail d'équilibriste.
Vous avez vu la dernière dépêche, Léa Landman, Benjamin Netanyahou qui appelle ce soir la communauté internationale à rester unie face à l'Iran.
Bien sûr.
Comment on décrypte ce message?
On décrypte que les Israéliens parlent depuis samedi soir de coalition. Puisqu'on a eu quand même et les pays occidentaux et les pays arabes qui ont participé à cette contre-attaque. J'irai pas jusqu'à parler de coalition, plutôt de coalition ad hoc, mais effectivement dans un Moyen-Orient nouveau, on aimerait voir cette coalition un peu plus active. Et on demande pas maintenant une coalition active militairement, on demande une coalition active diplomatiquement.
La question ce soir, c'est est-ce que Benjamin Netanyahou va être sensible à l'appel de la communauté internationale, et j'ai nommé communauté internationale tous ceux qui l'ont aidé ce week-end à intercepter ces missiles et ces drones. On pense aux États-Unis, aux Britanniques, aux Français. C'est la question des prochaines heures.
Alors, ils vont être sensibles surtout aux Américains, puisque cette fois-ci, ils ne vont pas, la réponse ne va peut-être pas être coordonnée complètement avec les Américains, mais ils vont tenir au courant les Américains. Et puis, ce qui se dit quand même, c'est que la réponse sera une réponse qui est censée passer un message très clair aux Iraniens, sans pour autant forcer une guerre. Alors, c'est pour ça que je disais, c'est vraiment un travail d'équilibriste. Après, il y a plusieurs moyens.
C'est comment répondre suffisamment fort sans aller trop loin.
Exactement. Mais c'est vraiment toute la question. Ça peut être une cyberattaque. J'en doute, mais ça peut être une cyberattaque. Ça peut être une attaque sur certaines cibles et infrastructures iraniennes. Mais franchement, je ne sais pas.
Georges Fenech.
J'aimerais comprendre quelle pourrait être la nature d'une réponse diplomatique. avec un État qui ne reconnaît pas l'existence d'Israël, qui n'appelle même pas Israël, d'ailleurs on la nomme entité sioniste, quel pourrait être un dialogue diplomatique à la suite de ce qui vient de se passer, qui est sans précédent historiquement, c'est-à-dire un bombardement avec des drones et des missiles du territoire israélien. Et s'il n'y a pas eu des centaines et des milliers de morts, c'est grâce à l'efficacité.
Mais quelle réponse vous apportez, Georges, si, sans menacer la paix mondiale ?
Il y aura une réponse militaire. Je ne vois pas comment on peut envisager de la part d'Israël une réponse diplomatique avec un interlocuteur, avec le régime des Mollahs, qui veut la destruction de l'État d'Israël. Qu'est-ce que vous voulez discuter quand on...
Est-ce que l'Iran aurait pu frapper plus fort ce week-end ?
Mais oui.
Oui, mais surtout une réponse diplomatique, je me permets. La réponse diplomatique, c'est pas seulement essayer de convaincre les Mollahs. La réponse diplomatique, ça peut être des vraies sanctions, ça peut être une grosse pression qui n'a pas été faite jusqu'à maintenant. Tout le monde a parlé d'efforts diplomatiques autour du nucléaire, mais en vrai, il n'y a pas eu vraiment d'efforts diplomatiques pour dissuader les Iraniens. Pour moi, la diplomatie, c'est pas seulement essayer de dialoguer. Ça, je suis d'accord, il n'y a pas avec qui dialoguer. Je suis encore étonnée, même aujourd'hui, je n'arrive pas à comprendre la logique des Iraniens. Je ne comprends pas. La politique
ils se sont mis tout seuls en difficulté à travers cette frappe.
Ça fait des années qu'on a des actions militaires d'Israël et de l'Iran, c'est pas nouveau. C'était pas cet assassinat dans une aile d'un consulat en Syrie, c'était vraiment pas le pire qui puisse arriver aux Iraniens. Donc je comprends pas pourquoi ils sont montés si haut. Je comprends pas comment ils ont. En fait, je comprends pas la logique de cette
frappe. Mais qui a le plus tort, l'Iran de mener cette offensive ce week-end contre Israël ou Netanyahou pour une éventuelle riposte qui entraînerait peut-être une nouvelle guerre ce soir et un nouveau front pour Israël. Jean-Sébastien Ferjou et Gabriel Cluzel.
Qui a le plus tort, je ne sais pas si ça se pose exactement comme ça, mais sur la rationalité des Iraniens, moi je pense qu'elle existe malgré tout. Après, on n'est pas obligé de la partager. Mais de leur point de vue à eux, je pense que leur analyse était qu'Israël est très affaibli sur la scène internationale à l'heure actuelle et qu'ils voulaient profiter de ce moment pour montrer qu'ils pouvaient frapper depuis le sol iranien. C'est-à-dire, c'est ça l'élément très nouveau. C'est-à-dire que jusqu'à présent, les Iraniens ont frappé via les Houthis, ont frappé via le Hezbollah, ont frappé via... Et c'est pour ça que les Israéliens ont bombardé... Alors, ça n'était pas un consulat iranien, mais c'était un centre dans lequel il y avait des gardiens de la révolution, c'est-à-dire qu'ils sont présents sur le sol syrien pour attaquer militairement Israël.
Là, Israël, d'ailleurs, Israël rappelle que, et je les cite entre guillemets, puisque c'est la communication de l'état-major israélien, que des terroristes ont été abattus dans ce consulat à Damas le 1er avril dernier. Hein. Voilà comment est justifié.
On peut être sujet à
des ennemis d'Israël.
Des
ennemis d'Israël.
Ce sont des gardiens de la révolution. Quoi qu'il en soit, donc des combattants et pas des diplomates. C'est eux qui étaient dans ce bureau iranien situé à Damas. Et d'ailleurs, c'est assez étonnant de voir tous les gens qui ont obtenu leur diplôme de droit sur Instagram ces derniers jours qui disent « Ah, on n'a pas le droit d'attaquer un consulat ». Déjà, ce n'est pas ce que dit le droit international. Le droit international dit que le pays sur lequel, si vous êtes en France, vous ne pouvez pas vous en prendre à une résidence diplomatique d'un autre État. Mais ça ne dit pas qu'un autre pays ne pourrait pas s'y prendre. Quant aux Iraniens, ça n'a gêné personne quand ils ont tué beaucoup d'Israéliens
en Argentine.
Dans l'ambassade, en Argentine, à l'époque, il n'y avait pas grand monde qui protestait. Mais sur la rationalité des Iraniens, je pense qu'après, on peut douter effectivement de ce que ça leur apporte. Mais ils estiment qu'Israël est faible parce qu'il y a une énorme pression internationale sur Israël. Et on peut comprendre évidemment les inquiétudes de l'évolution d'une dérive vers une troisième guerre mondiale. On peut aussi prendre la question dans l'autre sens, et vous y faisiez référence. Quand on regarde le bilan, quand on fait le bilan de 20 ans, 25 ans, 30 ans, finalement... de complaisance en quelque sorte avec la République islamique, quel est le bilan aujourd'hui ? Est-ce que les Iraniens ont renoncé à leur programme nucléaire ? Est-ce que les Iraniens ont renoncé à déstabiliser la région autour d'eux ? Ils ont des problèmes avec toute la zone. Ils se sont implantés, ils ont ouvert 5 fronts contre Israël quand même, que ce soit à travers le Hezbollah au Liban, les Houthis, on en a parlé, que ce soit à travers la Syrie.
La seule différence avec il y a 30 ans, c'est que le régime est menacé de l'intérieur, peut-être affaibli de l'intérieur.
Et aussi des problèmes avec son voisin pakistanais par ailleurs. Il déstabilise la Cisjordanie aussi. Donc de toute façon, ne cachons pas derrière notre petit doigt. La guerre, elle existe déjà. La différence, c'est qu'elle était souterraine, que jusqu'à présent, les Iraniens se cachaient derrière ce qu'on appelle les proxys, enfin, ces espèces d'alliés par procuration, et que là, ils l'ont assumé ouvertement en se disant qu'Israël ne pourrait pas répondre en raison de la pression internationale.
Une attaque directe de Tzahal sur le sol iranien marquerait un point de non-retour qu'il faut éviter à tout prix.
Non, mais moi, je pense qu'il faut comprendre la genèse de ce qui s'est passé. Moi, si j'ai bien suivi, Israël a fait une liste de des cerveaux, hein, c'est pour résumer, de ce qu'il considère être les cerveaux de l'attentat du 7 octobre, et il les élimine un par un. On peut comparer ça, mutatis mutandis, à ce qui s'était passé après les attentats des Jeux Olympiques de Munich, avec, vous savez, l'opération Colère de Dieu, où ils avaient éliminé tous ceux qui étaient responsable, ça avait pris du temps, mais ça avait été tout à fait méthodique. Et d'ailleurs, c'est assez paradoxal, parce qu'on a beaucoup reproché à Israël, à Gaza, de faire des frappes non ciblées. Et on leur disait, mais il faut faire des frappes ciblées. Ben là, ce qui s'est passé dans l'annexe du consulat, c'était de toute évidence une frappe ciblée, et de fait, Israël communique sur l'élimination du général comment s'appelle-t-il, Zaidi. Oui. Voilà, et c'est un peu le même mode opératoire que Donald Trump quand il avait fait éliminer le général Soleimani, qui était de lui aussi avait à peu près le même genre de responsabilité à Al-Quds. Donc c'est et après, que s'était-il passé? Bah, l'Iran avait riposté vaguement, et puis les Américains avaient considéré que ils avaient atteint leur objectif et ils en étaient restés là. Et je pense que voilà où je veux en venir, que Joe Biden dit à Israël, bah finalement, voyez, vous avez atteint votre objectif. L'Iran a riposté, c'est quand même un peu ridiculisé, parce qu'ils ont mis pas mal de forces, ils ont jeté beaucoup de forces dans cette opération, et ça n'a pas abouti. Donc restons-en là, c'est votre victoire. Mais écoutons, ce qui se passera ensuite, ça, c'est difficile de dire.
Éviter l'embrasement, c'est la priorité des Américains ce soir. Écoutez Joe Biden qui a communiqué ces dernières heures.
Les États-Unis sont déterminés à assurer la sécurité d'Israël. Nous sommes déterminés à obtenir un cessez-le-feu qui ramènera les otages à la maison et empêchera le conflit de s'étendre plus qu'il ne l'est déjà.
Ouais. Julien Baloul, bonsoir. Bonsoir à Julien Baloul qui est avec nous par vidéo. Je rappelle que vous êtes ancien journaliste, ancien porte-parole réserviste de Tsahal. Merci d'être avec nous en direct. On vient d'entendre Joe Biden, hein. Toute la communauté internationale plaide une non-escalade. L'absence de réaction n'est pourtant pas une option pour Israël ?
Non, clairement, visiblement, Israël a clairement fait le choix de la réaction. C'était un débat. Certains estimaient que cette violation, enfin cette attaque frontale, hein, contre le territoire israélien depuis l'Iran, assumée, affichée, puisque dans le passé, c'était dit sur le plateau, Israël et l'Iran s'étaient affrontés sur des terrains, disons, tiers, sans forcément revendiquer les différentes attaques. Pour certains, c'est un seuil qui a été franchi, une ligne rouge qui a été franchie, et il fallait réagir. Certains même disaient dès samedi soir. Et là, clairement, ce n'est pas un secret, parce que le porte-parole de Tsahal a fait une déclaration avec derrière lui des avions F-35 en disant « ceux qui dirigent des missiles contre Israël vont payer le prix ». Quelle forme de réponse, on ne sait pas encore, et quelle forme de soutien à la de la part de la communauté internationale, c'est aussi une grande question, vous l'avez dit sur ce plateau, parce que si la communauté internationale, on a vu hein, la Jordanie, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, la France, les États-Unis, etc., etc., soutenait Israël lorsqu'il s'agissait de défense, pas sûr qu'ils suivent lorsqu'il s'agit d'attaque.
Que dit l'opinion israélienne depuis dimanche matin ? Est-ce que les Israéliens attendent une riposte ou au contraire la craignent et sont plutôt de l'avis de la communauté internationale qui plaide la désescalade ?
Il faut se mettre dans un contexte qui est très global. Les Israéliens, donc on est en guerre depuis plus de 6 mois, depuis le 7 octobre.
Bien sûr.
On est en guerre sur plusieurs fronts. On a oublié, mais en fait, on a encore plus de 130 otages dans la bande de Gaza. On a une opération Rafah, peu importe en français ou en hébreu, qui doit avoir lieu d'un moment à l'autre avec les derniers bastions du Hamas et les otages qui sont là-bas. On a une menace du Hezbollah au nord, contre laquelle on nous prépare depuis déjà plusieurs mois, avec des plans où il faudra vivre peut-être avec des énormes coupures d'électricité pendant plusieurs jours, avec des Israéliens qui font des stocks d'eau potable et des stocks de médicaments, avec les entreprises qui font des plans pour se préparer au pire pendant de longues périodes. Donc on se prépare sur tous les fronts en même temps, et en fait, on ne peut pas déconnecter ça, si vous voulez, de l'ensemble de l'image, de l'ensemble du puzzle. Donc le front iranien, c'est en fait, certains disent, peut-être un peu trop, et d'autres disent, mais en fait, on ne peut pas continuer à faire la guerre aux tentacules de la pieuvre à Gaza et au nord sans s'en prendre au cerveau, sans s'en prendre à la tête de tous nos problèmes, de tous nos maux au Moyen-Orient, parce que certains disent, ah, mais cette frappe iranienne contre Israël samedi soir, finalement, c'est le résultat d'une frappe israélienne. Non, Non, ça a commencé bien plus tôt. Le 7 octobre, c'est le résultat du Hamas qui est financé et qui est perpétré par le Hamas, par l'Iran. Donc non, on a vraiment l'impression que cette fois-ci, c'est s'en prendre au cerveau de tout ce qui se passe dans la région.
Mais Julien Balloul, est-ce qu'Israël peut se permettre, sachant d'ailleurs que les États-Unis rappellent qu'ils n'aideraient pas Israël militairement en cas d'une offensive sur l'Iran, est-ce qu'Israël, dans ce cas-là, seul peut se permettre d'ouvrir un nouveau front ?
Je pense qu'Israël, dans ce cas-là... Militairement, Israël peut se permettre d'ouvrir un nouveau front, oui. Pour la défense, Israël a besoin de ses alliés. Israël, on va être un, on ne peut pas prétendre ne pas pouvoir agir sans l'allié, notamment sans l'allié américain, sans le soutien également de pays arabes. Israël ne peut pas agir seul, mais je pense qu'il y a une conjonction d'intérêts au Moyen-Orient entre pas mal de pays. Et on les a vus ce week-end. Il y a quand même l'armée jordanienne qui a combattu avec l'armée israélienne. C'est quand même dingue. Sans parler du soutien de l'Arabie Saoudite, sans parler des Émirats Arabes Unis, enfin, c'est quand même pas rien. Il y a quand même une conjonction d'intérêts qui est importante, sans parler du fait que je crois avoir vu que sur les médias réseaux sociaux arabes, l'Iran est ridiculisé face à l'échec de son opération samedi soir.
Vous restez avec nous, si vous le voulez bien, Julien Balloul. Vous nous faites signe dès que vous voulez réagir. Léa Landman, je voudrais juste... La réponse est dans la question, mais c'est important parce que, encore une fois, et Jean-Sébastien Ferjou le rappelait, il y a des juristes 2.0 sur les réseaux sociaux qui naissent au gré des différentes affaires et actualités. Comment précisément on qualifie l'attaque iranienne du week-end passé ? Est-ce que c'est une offensive ou est-ce que c'est une riposte ?
D'un point de vue légal...
Je pose la question en fait, parce que vous n'êtes pas sans savoir que notamment à l'extrême gauche ici en France, on parle d'une riposte de l'Iran après l'attaque contre le consulat du 1er avril.
Mais alors on commence quand ? C'est quand le point de départ ? Pour moi, tout dépend du point de départ. Et j'entends ce qu'on dit et en fait...
Je pense que cette question mérite d'être répondue en tout cas.
C'est une réponse, c'est pas une riposte, parce que une riposte voudrait dire que out of the blue, venu de nulle part, Israël a décidé que vraiment il fallait tuer ce général iranien qui était le responsable des gardiens de la révolution pour tout ce qui était l'armement et les attaques contre Israël en Syrie, au Liban. Mais en fait, ça commence avant, on l'a dit. Donc, si c'est une question de riposte ou de réponse, non, c'est une réponse. Est-ce que c'est une attaque? Pour moi, c'est un peu... Non, ce n'est pas une riposte. Mais surtout, vous avez dit... vous parlez d'escalade. Tout le monde essaye d'éviter l'escalade. Mais en fait, ça ne se pose pas dans les termes d'escalade ou pas.
Parce qu'une guerre frontale entre Israël et l'Iran, ce serait inédit.
La communauté internationale, on dit guerre ou pas guerre. C'est 0 ou 1. Mais ce n'est pas comme ça que ça se mesure. Non, ce n'est pas comme ça que ça se mesure. Est-ce que c'est une guerre maintenant ou est-ce qu'on se prend maintenant pendant 50 ans... l'Iran qui fait ce qu'elle veut et envoie des missiles quand elle veut, parce qu'elle n'est absolument pas dissuadée.
Mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si on fait le bilan des 20-30 dernières années de l'attitude des Occidentaux, et peut-être plus encore depuis les mandats de Barack Obama, qui a essayé de négocier sur le nucléaire iranien, mais Barack Obama qui était dans une attitude, souvenez-vous, c'est l'époque où les Américains ont laissé s'installer les frères musulmans au pouvoir en Égypte, tout en se retirant du Moyen-Orient, avec un grand aveuglement sur la réalité de la région. Donc effectivement, le conflit, il date d'il y a très longtemps, mais le bilan, c'est est-ce que cette volonté d'éviter l'escalade, elle nous a permis d'échapper à l'escalade, ou est-ce que de toute façon l'escalade, elle ne se produit pas mécaniquement parce que l'Iran continue à avancer sur ses projets. D'ailleurs, je vous le disais, l'Iran, quand vous regardez aujourd'hui, alors que traditionnellement, d'ailleurs l'Iran n'avait jamais été une puissance expansionniste, l'Iran maintenant occupe le Liban est largement sous influence iranienne via le Hezbollah, une partie de la Syrie l'est aussi, le Yémen l'est aussi via les Houthis, l'Iran s'est implanté en Irak aussi, donc l'Iran est en train vraiment de s'implanter dans la région.
Et donc c'est bien ça, tout le nœud de la question. Il faut frapper suffisamment pour dissuader l'Iran, mais pas trop fort pour...
La question, vous savez, vous parliez
d'une équation assez...
Sur les réseaux sociaux, ce qui était très intéressant aujourd'hui, c'était les réactions des Iraniens eux-mêmes sur les réseaux sociaux et des Iraniens...
Alors je vais y venir. Est-ce que je peux vous montrer cette séquence d'abord ? Parce que justement, c'est très important de faire le distinguo entre la République islamique d'Iran et le peuple iranien.
Majoritairement, n'est absolument...
Regardez cette séquence aujourd'hui, ou plutôt il y a quelques heures... au Parlement iranien, où les appels à la mort d'Israël ont été scandés par les représentants.
Mais
Ça fait peur forcément, mais rappelons donc que la République islamique d'Iran n'est pas le peuple iranien. C'est important de le souligner à l'aune d'une séquence aussi.
Le guide religieux, l'ayatollah Khamenei, ne cesse de répéter qu'il veut détruire Israël, qu'il faut détruire Israël, que c'est la mission de la République islamique d'Iran de détruire Israël, mais ça n'est globalement pas du tout... pas parler de toute la population iranienne, enfin comme si elle était absolument homogène, mais globalement la population iranienne est très différente dans ses opinions de ceux qui sont censés la représenter. Souvenez-vous, après le 7 octobre, ce stade à Téhéran où justement les Iraniens avaient protesté, les Iraniens présents, et pourtant, eux, ils prennent des vrais risques, hein, pas comme nos fameux résistants sur les réseaux sociaux en France. Parce que quand vous êtes en Iran et que vous opposez au régime, vous risquez pas juste d'avoir une polémique sur les réseaux sociaux. Et donc il y a toute une partie, et des jeunes Iraniens qui disaient aujourd'hui en plus, en disant qu'ils sont exaspérés de voir où étaient les Occidentaux, où était la gauche radicale occidentale quand les femmes iraniennes appelaient à l'aide? Où était la gauche radicale occidentale quand les hommes iraniens qui ont voulu soutenir les femmes l'année dernière étaient pendus en place publique en Iran? Où étaient-ils ces gens-là qui d'un seul coup se découvrent un
Mais c'est peut-être parce que la rue iranienne montre des réticences à la volonté du régime, c'est parce que le régime iranien est affaibli qu'il est peut-être encore plus dangereux que jamais aujourd'hui aussi.
Non, mais parce que je pense que c'est des billards à cinq bandes, parce que bien sûr qu'on dit que l'attaque du 7 octobre, c'était, et c'est vrai, pour mettre à bas les accords d'Abraham, parce que l'Iran entendait que cette entente qui est en train de se construire ne se fasse pas. Mais Israël, c'est aussi un moyen de cohésion négative avec sa propre population. C'est-à-dire que montrer Israël comme l'ennemi, c'est faire oublier toutes les tensions intérieures. Mais après, il faut faire attention, je pense, aux prophéties autoritaires réalisatrice, enfin, ne pas prendre ses désirs pour des réalités, c'est-à-dire que qu'en est-il de la complexité, de la réalité de la population iranienne, c'est difficile de savoir. De la même façon que quand la Jordanie s'allie à Israël ou l'Arabie Saoudite, ça ne dit pas forcément l'état d'esprit des populations. Et les dirigeants sont quand même sur des lignes de crête.
Non, mais c'est ça qui est très différent, les opinions des États du Golfe sont probablement plus anti-israéliennes que les Iraniens. La population iranienne ne l'est elle-même. C'est-à-dire que les Iraniens sont excédés par ce qu'ils considèrent être un deux poids deux mesures. C'est un peuple qui est très nationaliste. Ils sont excédés par le fait qu'on ait laissé à Israël, ça n'est pas officiel, mais enfin chacun sait qu'Israël a la bombe nucléaire. Les Iraniens peuvent dire, le peuple iranien peut dire, pourquoi les Occidentaux vous laissez Israël avoir la bombe nucléaire et pas nous? Mais ça n'est pas pour autant qu'ils sont dans l'antisémitisme. Il y a quand même 25 à 30 000 juifs iraniens qui vivent en Iran. Ça n'est pas
il y a une vérité objective. Alors, juste un mot de genre.
Il n'y a pas d'autres États arabes dans lesquels.
Il y a une vérité objective ce soir. L'Iran est une menace.
Ah ben la République islamique est une
pour l'ensemble de la communauté internationale, l'Iran est une menace imminente. Qu'est-ce qui permettrait de juguler l'influence de la République islamique d'Iran? C'est la question que doit se poser toute la communauté internationale derrière l'État d'Israël ce soir.
C'est d'abord la question que se posent d'abord les Israéliens.
Oui.
Et les Israéliens, on les connaît, par le passé, ils ne feront que ce qu'ils estimeront devoir faire sans attendre la permission de personne. Pas même des Américains. Qui était derrière...
Vous croyez franchement?
Oui, j'en suis convaincu. Qui était derrière le 7 octobre? L'Iran. Qui est derrière le Hezbollah libanais, qui lance des roquettes depuis toujours? L'Iran. Qui est derrière le djihad islamique? Etc, etc. Ça n'a pas commencé uniquement dimanche. Vous demandiez comment on qualifie ce qui s'est passé dimanche. C'est un acte de guerre. Quand vous bombardez un État...
Je pose la question parce que l'Iran parle de riposte.
C'est un acte de guerre sans déclaration de guerre. Il n'y a pas eu de déclaration de guerre. Alors qu'Hitler, quand il envahit la Pologne, il l'envahit. C'est un acte de guerre d'une puissance contre une autre puissance qui, en plus, est dotée de l'arme nucléaire, il faut le rappeler. Donc je crois qu'en l'état actuel, la riposte, elle va avoir lieu, c'est certain, face à un État qui est une menace, vous venez de le dire, depuis toujours, qui veut détruire l'État d'Israël et qui s'apprête à avoir l'arme nucléaire. Donc on imagine mal les Israéliens, Benjamin Netanyahou surtout, qui brandit cette menace depuis déjà plusieurs années, ne pas faire en sorte que l'Iran soit neutralisé.
Je sais que Julien
Balloul... Je dis bien neutralisé. J'ai pas d'informations, pas plus que vous, que personne, sur ce qui va se passer. Mais on imagine bien que face à cet acte sans précédent d'un bombardement d'État d'Israël, quand vous savez qu'il y aura...
Et c'est aussi la crédibilité d'Israël qui est en jeu. Si Israël ne répond
indépendamment
pas...
Indépendamment de la crédibilité, on n'est pas quand là dans un jeu.
Non, je ne parle pas de jeu, mais je parle d'une population.
Ceci, je te fais cela, je te refais... C'est pas ça du tout qui est en jeu. Ce qui est en jeu, c'est l'existence d'Israël, pour les Israéliens. Et qui menace Israël ? L'Iran. Qui s'apprête à avoir la bombe nucléaire ? L'Iran. Donc il faut s'attendre sans doute à une réplique très forte.
Léa Landman, avant d'aller voir Julien Balloul qui veut intervenir, on a bien compris que les États-Unis sont contre une escalade, sont contre une réponse militaire de la part de Tsahal. Quelle serait une réponse susceptiblement acceptable de la part de Washington, de la part d'Israël ?
Alors c'est la grande question que tout le monde se pose évidemment depuis samedi. Et on parle de grosso modo deux sortes de réponses. Une, c'est une grosse attaque cyber. Et ça paraît...
Ce serait acceptable pour Washington.
Ouais, oui. Une grosse attaque cyber sur des grosses infrastructures iraniennes ou bien une attaque en Iran sur des infrastructures iraniennes. Encore une fois, qui ne ferait pas de mort civile en Iran, mais...
Si elle est maîtrisée.
Si elle est maîtrisée, mais étant donné que l'attaque venait d'Iran, je ne vois pas comment on peut tourner autour de ce truc-là. Après, juste deux petits points, parce que vous avez dit deux choses qui n'étaient pas exactement correctes. D'abord, la République islamique d'Iran a été créée sur un islam politique expansionniste, c'est-à-dire qu'en fait...
Parlez de la civilisation iranienne, de l'histoire des millénaires qui précédaient.
Ah, d'accord. Parce que si on parle depuis...
Ah non, mais la République islamique d'Iran a toujours été...
On va dire qu'en gros, pour simplifier pour nos spectateurs, depuis 1979, l'Iran n'a qu'un objectif, c'est éradiquer l'État d'Israël.
Oui, et surtout, on voit aujourd'hui, à travers tous leurs proxys, à travers tout le Moyen-Orient, qu'en fait, ils ont réussi à traduire cette politique d'expansion en militaire, en fait, en acte militaire, puisqu'ils ont des proxys dans tous les pays qui sont dans pratiquement tous les pays du Moyen-Orient, les pays chiites, exactement. Et pas seulement Israël, en Irak, en Syrie, au Yémen, on connaît la liste. Et la deuxième chose, c'est que ces 30 000 juifs dont on aime bien parler en Iran ont quand même fait une déclaration aujourd'hui ou hier disant qu'ils soutenaient l'attaque iranienne. Donc je ne le mettrai pas comme un exemple. Je ne le mettrai pas comme un exemple. Et le dernier point, et qui est pour moi une des questions fondamentales depuis le 7 octobre, c'est ce décalage entre le leadership arabe et la population arabe. Parce qu'il y a un sondage du Centre arabe de recherche d'études politiques de Doha qui a été publié en janvier, qui était un sondage parmi 8000 personnes sur 16 pays arabes. Et les chiffres, ils sont complètement fous, en fait. Parce que, par exemple, ce qui concerne la normalisation avec Israël, c'est 89% des personnes interrogées dans l'ensemble du monde arabe qui rejettent la reconnaissance d'Israël. D'accord.
Les dirigeants sont à contre-courant de ce que les populations.
Les dirigeants sont complètement à contre-courant, mais ils l'assument, parce que si on voit bien depuis le 7 octobre, aucun pays n'a coupé les liens avec Israël. Et ça, je trouve ça incroyable. Vraiment. Ils assument ouvertement. C'est leur besoin.
Julien Balloul, qui écoute depuis un moment ses analyses en plateau, vous vouliez intervenir, Julien ?
Et deux choses. Je vais réagir d'abord sur la population, l'opinion publique de la rue arabe. C'est pas étonnant qu'il y ait autant de personnes, donc je crois 89%, et le chiffre qui a été cité, qui était contre la normalisation avec Israël. En même temps, ces dirigeants arabes payent le résultat des décennies de propagande anti-israélienne qu'ils ont inculquée dans la rue, dans les médias, dans les écoles, avec la haine d'Israël. Ça ne peut pas changer en quelques jours. Donc, si les dirigeants sont surpris d'être à contre-courant de leur propre population, il faudrait qu'ils s'interrogent sur les conséquences de leur propre propagande. C'est la première chose. Ensuite, par rapport à la communauté juive iranienne, il ne faut pas oublier qu'elle vit dans une dictature islamiste et qu'elle est obligée de condamner l'État d'Israël pour être tolérée par le régime iranien. Mais réellement. C'est-à-dire que ça fait vraiment partie de ses obligations. On le sait, certains se sont intéressés à l'histoire de l'immigration juive iranienne vers l'État d'Israël, de ce qu'ils racontent, de leurs témoignages, leurs souvenirs d'enfance au moment de la révolution islamiste, etc. etc. Voilà, donc c'est des choses qui sont importantes. Je vais faire une digression, mais lorsque je vois certains en France à l'extrême gauche qui se servent de quelques juifs pantins qui, eux, accepteraient de condamner l'État d'Israël pour être qualifiés de bons juifs, les juifs acceptables, les juifs anticoloniaux, entre guillemets, etc., etc. Ça me fait penser à cette dictature où les juifs doivent condamner l'État d'Israël et condamner les sionistes, comme on a pu voir ça d'ailleurs en URSS, par exemple, au passé, pour être admis par le régime. Et on le voit, l'extrême gauche en France fait ce genre de même sorte de manipulation en disant « Regardez, ça, c'est les vrais juifs, ceux qui combattent pour la Palestine, c'est les bons juifs. Et de l'autre côté, il y a les mauvais juifs, ceux qui sont attachés à l'État d'Israël.
Et d'ailleurs, Julien Balloul, j'en profite pour rappeler à nos téléspectateurs que juste après le JT, là, dans 5 minutes, on parlera de la réaction de la France insoumise à l'attaque de l'Iran. Et là encore, il y a beaucoup à dire. La France insoumise, le parti de Jean-Luc Mélenchon, de moins en moins ambigu sur son rapport à Israël et aux juifs. Juste une dernière question avant de vous libérer, cher Julien. Quelle est la priorité pour Israël ce soir ? De répondre à l'Iran ou de mener cette offensive à Rafah et sortir ces plus de 130 otages qui sont toujours dans les tunnels du Hamas ? Enfin, on espère qu'ils sont toujours en vie d'ailleurs, parce qu'on n'a pas de preuve de vie pour ces otages depuis de longues semaines maintenant, je le précise.
Absolument. Ça, c'est la grande question. Et là, il y a une immense division au sein de la société israélienne. Je le voyais sur Internet, je le voyais dans les médias, je le voyais sur les plateaux télé, je le voyais dans le groupe WhatsApp. Certains disaient non, d'abord l'Iran, non, d'abord d'abord le Hezbollah, non, d'abord les otages. C'est une question qui est extrêmement douloureuse. Moi, à titre personnel, mais ça n'engage que moi, je pense que les otages sont de priorité parce qu'il y a un accord tacite, un accord moral entre l'État d'Israël et ses citoyens, que l'État d'Israël ne laissera pas ses citoyens, n'abandonnera pas ses citoyens entre les mains de ses ennemis, n'abandonnera pas non plus les soldats otages. Évidemment qu'en tenant ce genre de ligne que je défends ici, ça fait aussi un peu le jeu des terroristes qui disent « Ah, donc les otages, c'est une bonne monnaie d'échange, il faut continuer cette méthode. » J'en suis conscient. Mais je crois que je me mets à la place de ces familles. Il y a la place des otages à côté de chez moi, à Tel Aviv. Je me mets à la place de ces familles qui ont leurs enfants, leurs maris, leurs filles, leurs frères, leurs amis entre les mains de terroristes depuis plus de 6 mois, des femmes qui sont violées tous les jours, des personnes qui sont torturées. Il faut mettre un terme à ce calvaire.
Et on en profite évidemment pour avoir une pensée très forte pour tous ces otages qui, depuis plus de 6 mois désormais, sont retenus par le Hamas. Pardonnez-moi.
Et notamment les 3 otages français.
Bien sûr. Merci de le rappeler. Julien Balloul, ancien journaliste et ancien réserviste, porte-parole de Tsahal. Merci d'avoir été avec nous. Vous restez avec nous. On marque une pause actualité pour une petite minute avec l'essentiel autour de Maureen Vidal. Pardonnez-moi. On va entendre Emmanuel Macron qui confirme que la France a donc procédé à des interventions ce week-end contre ces frappes iraniennes. Et puis la communication de LFI de plus en plus nauséabonde autour de ce conflit au Proche-Orient. À tout de suite.
L'ADN analysé dans le Doubs n'est pas celui de Xavier Dupont de Ligonnès. Après plusieurs signalements, des gendarmes avaient prélevé l'ADN sur des canettes consommées par un visiteur qui s'était rendu dans un couvent près de Besançon. Les enquêteurs poursuivent leurs investigations, a précisé le procureur de la République de Nantes. Nouvelle attaque au couteau dans une église en pleine messe à Sydney en Australie qui a fait 4 blessés. L'auteur des faits, un adolescent de 15 ans interpellé par la police australienne. À la suite de ces événements, des centaines de fidèles ont tenté de rejoindre l'église. De violents heurts ont éclaté. 2 policiers ont été hospitalisés, des véhicules endommagés et des jets de projectiles sur les forces de l'ordre. Un événement qui intervient 2 jours après une attaque qui a fait 6 morts dans un centre commercial de la ville. Enfin, un procès historique s'est ouvert aujourd'hui aux États-Unis. L'ancien président américain Donald Trump est jugé pour une affaire de paiement destinée à acheter le silence de l'ancienne star du porno Stormy Daniels. Des paiements qui auraient été effectués à quelques jours de l'élection de 2016. Il dénonce notamment une persécution politique orchestrée par Joe Biden.
Et on en parlera d'ailleurs en fin d'émission. Merci Maureen. Rendez-vous dans 30 minutes pour un nouveau point sur l'actualité. Emmanuel Macron a donc confirmé que la France a procédé à des interventions et des interceptions plutôt lors de l'attaque de l'Iran et a assuré tout faire pour éviter l'embrasement dans la région. Écoutez-le.
La France a été aux côtés d'Israël et sous coordination américaine avec nos amis britanniques parce que nous sommes sur le sol jordanien. À la demande de la Jordanie, nous avons eu des interceptions en stricte protection et défense à faire dans cette nuit, en effet, de samedi. Mais donc nous avons condamné, nous sommes intervenus et aujourd'hui nous allons tout faire pour éviter l'embrasement, c'est-à-dire l'escalade.
Des rafales français qui ont participé à l'interception de ces missiles et drones à la demande de la Jordanie rappellent la diplomatie française. On n'est pas capable de dire tout simplement que la France a participé à la défense d'Israël. C'est un peu ridicule, d'autant que, je ne sais pas s'il est à disposition parce qu'il était sur les réseaux sociaux il y a seulement quelques minutes, mais le chef d'état-major a remercié ce soir les Américains, les Français et les Britanniques pour leur aide sur cette offensive. Donc c'est absurde. On se protège de quoi ? Quelle diplomatie dans le monde peut douter une seule seconde que nous n'avons pas aidé Israël directement ?
Jusqu'à ce matin, c'était pas clair, hein, que les Français aient participé. Enfin, c'était logique, mais pas clair.
Oui,
mais c'est logique. Parce que je ne sais pas pourquoi, c'est un peu honteux de dire que...
Le monde entier sait qu'on a abattu des missiles iraniens. Quel intérêt de dire qu'on protège la Jordanie ?
Participer en expliquant qu'on protège la Jordanie et qu'on protégeait nos propres bases.
Oui, mais pas Israël.
On ne veut pas dire clairement pourquoi, pour quelle raison, à votre avis ?
Bah, domestique.
Mais non. Mais c'est évident que ce sont des raisons de politique intérieure.
Non, je peux pas croire que c'est ça.
Mais écoutez,
évidemment.
On ne peut pas indisposer les ennemis de l'intérieur en France d'Israël. Voilà.
Les raisons sont les...
Quel manque de courage, si c'est
ça. Non, mais c'est les mêmes raisons qui poussent...
Dans ce cas-là, il aurait peut-être fallu dire au chef d'état-major, devant la presse du monde entier, ne nous remerciez pas d'être intervenus dimanche, parce que là, on est un peu ridicule.
Mais c'est
d'ailleurs,
évident,
tiens, pardon,
c'est...
Gabriel, vous êtes tout de suite, vous prenez tout de suite la parole. On a l'extrait dont je vous parlais du chef d'état-major de Tzal.
Israel Defense Forces, together with the United States...
Les forces armées israéliennes, en lien avec les États-Unis, les forces armées britanniques et françaises et d'autres partenaires, ont opéré ensemble dans les airs, la mer et au sol. Je souhaite remercier tous nos partenaires internationaux qui se sont dressés contre l'agression iranienne. L'attaque a créé de nouvelles opportunités de coopération au Moyen-Orient.
New opportunities for cooperation in the Middle East.
Gabriel Cluzel.
Mais on sent que derrière, le gouvernement français dit « ne nous remerciez pas trop fort
».
C'est le fil rouge qui est tiré depuis le 7 octobre, hein, pardon, mais c'est cette espèce d'inconfort parce que, tout simplement, il y a des enjeux intérieurs.
Ce matin, Dominique de Villepin a dit que c'était pour éviter de risquer l'engrenage.
Non, mais je pense que surtout, c'est pour éviter l'embrasement intérieur. Oui. Encore une fois, nous avons déjà un mort, hein, il s'appelle Dominique Bernard, vous en souvenez. Donc le conflit est chez nous et notre impéritie migratoire, j'ose le dire, fait que nous ne pouvons pas avoir les coups des franches pour dire ce qui nous voulons soutenir et ce que nous voulons faire. Nous en sommes là aujourd'hui, c'est évident. Et d'ailleurs, c'est pour les mêmes raisons, même si c'est en miroir, que la France insoumise, elle aussi joue sa partition.
Je vais profiter de cette transition que vous m'offrez, cher Gabriel. Georges, je sais que vous vouliez intervenir, je vous donne la parole.
Complément.
Alors très vite, s'il vous plaît.
Non, et rappelez, il y a quoi, 2 semaines, que le ministre des Affaires étrangères réclamait des sanctions contre Israël.
Honteux, d'ailleurs, cette déclaration sur laquelle il n'est jamais revenu.
Des sanctions contre Israël, vous imaginez.
Le conflit est chez nous, disiez-vous, en pointant notamment la France insoumise. La France insoumise qui a réagi donc ces dernières heures à l'attaque de l'Iran contre Israël via ce communiqué dont je vous lis un extrait. En réplique au bombardement du consulat iranien en Syrie par le gouvernement Netanyahou, l'Iran a lancé une attaque de drones contre Israël. La France insoumise a condamné le bombardement du consulat iranien et le meurtre de 16 personnes qui s'y trouvaient. Elle condamne tout aussi clairement et fermement la riposte italienne, indique le parti de Jean-Luc Mélenchon. Commentaire. Bah Gabriel, vous qui commenciez à évoquer LFI qui attribue, donc, parce qu'il faut lire entre les lignes de ce communiqué, LFI qui attribue donc la paternité des hostilités à Israël, ce serait aussi peut-être objectif de rappeler ce qui s'est passé le 7 octobre, parce que le premier sponsor du Hamas, c'est l'Iran.
Non mais évidemment, la riposte, puisque nous parlions de riposte, la riposte, elle est venue d'Israël quand ils ont ciblé cette annexe du consulat. Le point de départ de l'attaque, c'était évidemment le 7 octobre. Mais la France insoumise drague, mais de façon éhontée, c'est plus des clins d'œil, je ne sais plus comment qualifier ça, cet électorat espéré. Moi, j'ai été aussi frappée par la déclaration d'Hersi Yassoud, vous l'avez vu, hein, qui a renvoyé dos à dos.
Et ben comme vous l'évoquez, voilà. Décidément, vous me tendez beaucoup de perches ce soir. Non, mais c'est très bien, comme ça on avance et ça permet à nos téléspectateurs de voir un petit peu tout ce qui est dit. Hersi Yassoud, d'abord sur Benjamin Netanyahou, a obtenu ce qu'il cherchait en assassinant un dirigeant iranien dans une ambassade en Syrie. Une guerre régionale est le seul moyen qu'il a trouvé pour assurer la survie politique de son gouvernement. Et puis elle a tweeté également, ces deux pays, elle met dos à dos quand même la démocratie israélienne israélienne et le régime islamique iranien sont des théocraties. Par ailleurs, en bombardant une ambassade iranienne, Israël a déclaré la guerre à l'Iran. Et on n'oublie pas les bombardements d'Israël au Liban, le génocide des Palestiniens. La situation est trop grave pour faire des approximations, dit-elle en faisant elle-même approximations.
C'est quand même inouï.
Hein, les deux messages d'Ersilia Soudet sont inouïs.
Et vous savez, beaucoup de gens sur les réseaux sociaux disaient, mais comment ça peut venir d'une enseignante? Alors, elle est prof de français, pas d'histoire, c'est pour ça qu'elle doit être à l'aise avec les fables et les romans, beaucoup plus qu'avec la réalité. Mais c'est absolument dramatique qu'une députée ait un comportement aussi irresponsable. De la même façon que l'on dit qu'on met une cible sur tel ou tel quand on l'accuse de complicité avec des crimes à Gaza. Vous savez, ça a été fait à propos de Yael Braun-Pivet, par exemple.
Bien sûr.
Là, c'est tout à fait la même chose. On n'hésite pas à faire craquer l'allumette et c'est absolument désolant. Alors, je rappelle que Ersilia Soudet, et j'en finirai là, elle dit elle-même qu'elle fait partie des féministes internationales. Écoutez, pardon, mais elle va nous expliquer en quoi l'Iran est féministe et comment ça se passe là-bas. Et si la condition féminine est tout à fait équivalente à Tel Aviv et à Téhéran. Non, mais c'est proprement...
Mais ces gens-là doivent bien profiter de leur mandat de député ou d'élu parce que ça risque pas de durer.
En plus,
très franchement,
il n'y a pas une ambassade, c'est pas une ambassade.
Non, c'était un consulat.
C'était l'annexe du consulat.
Une annexe du consulat, précisément. Pour continuer dans cette litanie d'événements ou de phrases qui nous montrent à quel point Jean-Luc Mélenchon et son parti sont de moins en moins ambigus. Jean-Luc Mélenchon et Rima Hassan seront présents à une conférence à l'université de Lille en fin de semaine, et regardez l'affiche qu'ils ont proposée pour annoncer ce meeting. Là, vous le voyez mal en bas à droite, mais on va le grossir pour vous. On peut lire en bas à droite, donc Libre Palestine, et il y a cette petite carte en dessous. Je ne sais pas si on a le zoom avec Adrien Fontenot en régie, qui représente la Grande Palestine. Et la Grande Palestine, c'est une Palestine dans laquelle Israël n'existe plus. Ça commence à faire beaucoup, Léa Landman.
Alors, Julien, je voulais justement vous en parler de cette histoire, parce que ces tweets complètement aberrants qui montrent une grande, grande confusion morale quand même, parce que je suis persuadée que c'est pas cynique. Je pense vraiment qu'ils y croient. Et cette affiche-là du Grand Palestine ou de...
Libre Palestine.
De la Libre Palestine, oui, mais c'est le Grand Palestine.
Oui, c'est la Grande Palestine.
Israël n'existe pas sur cette carte, en fait. Mais il n'y a jamais eu d'appel politique pour aucun pays au monde. On parle de génocide au Soudan, on peut parler de toutes les guerres que vous voulez, on appelle en fait à l'élimination d'un pays. Mais ils n'assument pas du tout en plus, parce qu'ils disent non, en fait c'est pas ce qu'on voulait dire, en fait c'est pas ça, on parle juste de la libération de Palestine, mais si Israël n'existe pas sur la carte, de fait, en fait, on appelle à l'élimination d'un pays, ou en tout cas on implique fortement qu'Israël n'a absolument pas le droit d'exister dans le monde de la LFI. Et le problème du monde de la LFI, c'est qu'il retrouve un écho très très fort parmi une très large population. Si on sait que 68% à peu près des élèves, des étudiants de Sciences Po votent LFI, on retrouve un écho là-dedans. Alors peut-être qu'ils voteront autre chose après quand ils retrouveront un peu de jugeote, mais
pour l'instant, ça ne semble pas être la dynamique actuelle. Rima Hassan, chacun va s'exprimer vraiment, il n'y a aucun souci, je voudrais juste qu'en rythme, parce que j'ai beaucoup de choses à vous montrer autour de LFI ces derniers jours. Alors allez-y sur l'affiche très vite, et puis je voudrais entendre Rima Hassan, qui est donc la candidate tête de liste aux européennes, qu'on voit sur cette affiche, qui était à Montpellier et qui a envoyé une première couche, si je puis dire, ce week-end depuis Montpellier.
Cette affiche-là, sur les réseaux sociaux, était accompagnée d'un message intéressant malgré tout. C'est une forme de démenti d'Ersilia Soudet en creux, ou d'autres d'ailleurs de la France Insoumise, qu'il disait que c'est un meeting qui alerte sur le risque génocidaire. Et le risque génocidaire, ça n'est pas un génocide. C'est-à-dire que la France Insoumise elle-même acte le fait, et vous avez vu que le Hamas est revenu sur les chiffres.
Sauf que dans son tweet, elle dit le génocide des Palestiniens. Hein, mais bon. Comment ? Dans le tweet d'Ersilia Soudet, il est écrit le génocide des Palestiniens, pas le risque génocidaire.
Je vous dis que le meeting dément de facto ceux qui, à la France Insoumise, martèlent qu'il s'agit d'un génocide. Vous avez vu que le Hamas est revenu sur les chiffres. Vous avez vu que le Hamas considère qu'en réalité, au-delà de 20 000 morts, ils ne sont pas capables d'établir fermement... Alors, il ne s'agit pas de nier la tragédie vécue par les civils.
Ah non, parce qu'elle est réelle.
Ni l'ampleur de ce que vivent les civils palestiniens. Ce serait absolument indécent que de le faire. Mais un génocide, ça n'est pas ça. Génocide, il y a 30 ans, il y avait le génocide au Rwanda. En deux mois, il y a eu 800 000 morts. 800 000 morts. Là, le Hamas de lui-même reconnaît, il avait communiqué sur plus de 30 000 morts, que finalement, il y a 20 000 morts certains. Et ce qu'on en regarde précisément, c'est que c'est sans compter les combattants.
Ça n'enlève rien au désastre qui se passe dans Gaza. C'est juste que les mots pour le décrire sont importants.
C'est un massacre,
et il faut
c'est une tragédie. Ça n'est pas un génocide.
On peut légitimement se poser la question de l'interdiction éventuelle de cette
C'est ce qu'a demandé la députée Renaissance du Nord.
Xavier Bertrand aussi, président de la région.
Et Xavier Bertrand
a demandé l'interdiction, car c'est une type de conférence qui peut attiser les haines.
Évidemment, donc, on a le tweet, je crois. On a le tweet de Xavier Bertrand, président de la région Hauts-de-France, je ne dis pas de bêtises, qui interpelle également à propos de cette affiche. Nous ne pouvons tolérer dans une université française une telle conférence de la France insoumise, de Jean-Luc Mélenchon et de Rima Hassan, qui à travers le logo Libre Palestine nie l'existence d'Israël. Je demande à l'université ou au préfet son annulation. Rima Hassan à Montpellier ce week-end, candidate LFI aux européennes, continue de pointer Israël comme seul responsable de l'embrasement, et elle continue de réclamer également un embargo sur les ventes d'armes à Israël. Rappelons que sans armes, le pays serait menacé de disparition, sachant donc encore une fois que le régime iranien promet la destruction d'Israël. Écoutez Madame Hassan.
La Palestine est un sujet européen, car nous sommes tous, d'une manière ou d'une autre, des Palestiniens. Alors camarades insoumis, je compte sur vous, je compte sur votre mobilisation le 9 juin prochain pour qu'on reconnaisse enfin l'État de Palestine comme va le faire l'Irlande et l'Espagne. Nous rejetons la spirale de guerre et nous nous battons pour que les armes se taisent. L'Europe est complice du génocide qui est en cours. L'Europe arme le régime génocidaire israélien. L'Europe le cautionne, le valide, le soutient. Je compte sur votre mobilisation le 9 juin prochain pour qu'on décrète un embargo sur les ventes d'armes.
Et voici ce qu'on a pu entendre également pendant ce meeting. Et Georges Fenech s'est fait exactement la même réflexion que la question que j'allais poser. On s'étonne après ça qu'il y a des actes antisémites dans notre pays, pendant que vous dites à tout bout de champ qu'Israël est génocidaire, vous créez forcément quelque chose.
Non mais c'est totalement... Mais je partage votre avis, je pense qu'ils sont convaincus maintenant. C'est même plus de l'électoralisme. Je pense qu'ils ont cette ligne, qui est une ligne politique, anti-israélienne, anti-sioniste, et on peut ajouter... antisémites, et on voit bien tous les actes d'antisémitisme qui sont perpétrés maintenant, avec des appels de ce type. Il ne faut pas s'en étonner que dans l'opinion, ça peut diffuser dans certains quartiers.
C'est ce qu'on appelle une méthode politique qui met en danger la démocratie.
Mais absolument.
Mais après, défendre la cause palestinienne est absolument légitime.
Mais personne ne dit le contraire, encore une fois.
Non, mais même, moi je suis pour la liberté d'expression, donc après, simplement, dans les débats, on peut en revenir à des faits, ce qu'ils oublient, mais il y a deux interprétations. Est-ce que l'existence d'Israël est légitime ou non? Parce que finalement, il y a des gens qui... ils sont pas très clairs dans leur propre schéma mental, en quelque sorte, parce qu'ils nous expliquent si Israël ne faisait pas ci, si Israël ne faisait pas ça, alors... il n'y aurait pas de réaction palestinienne. C'est une interprétation, en quelque sorte, 1967 du conflit. Si les Israéliens...
Après, allez un peu écouter les militants, entendre des slogans de la mer au Jourdain, puis vous comprenez vite
aller,
que...
juste pour aller au bout. Mais précisément, ils sont dans cette espèce d'interprétation 1967 du conflit. Si Israël ne se comportait pas comme ci ou comme ça, nous ne critiquerions pas Israël. En réalité, ils sont dans une interprétation 1948, c'est-à-dire Israël ne devrait pas exister, parce qu'ils sont des coloniaux, ils sont contre l'Occident, et qu'ils considèrent qu'Israël est l'incarnation absolue de l'Occident.
Ils finiront par le...
Mais d'ailleurs, même quand ils disent qu'Israël est un apartheid, qu'Israël est un État blanc, c'est absolument faux. Vous avez beaucoup de millions d'Israéliens qui ne sont absolument pas blancs de peau. Ils viennent eux-mêmes, ils sont originaires de pays où on a la peau
foncée. Vous avez
foncée.
Des députés en arabes.
Israël. Mais 30% d'arabes en Israël.
Il n'y a pas seulement des députés arabes en Israël. Il y en a. Il y a des ministres qui sont arabes. Il y a un juge arabe à la Cour suprême israélienne. Et donc, quand ils expliquent qu'Israël est un apartheid, qu'Israël n'est pas une démocratie, mais Rima Hassan, moi, ça ne me dérange absolument pas. Elle fait bien ce qu'elle veut, qu'elle se présente à des élections en France, mais elle revendique être palestinienne. Pourrait-elle se présenter à des élections en Palestine? Non, parce que les Palestiniens ne tiennent pas d'élections. Et que Mahmoud Abbas, la dernière fois que son mandat est arrivé à terme, ça devait être il y a 15 ans. Donc Rima Hassan, elle a qu'à essayer de se battre aussi en Palestine, avec les Palestiniens pour faire en sorte que la Palestine puisse être un État viable.
Et quand je vous dis que cet état d'esprit et cette façon de voir la politique israélienne infuse dans la société et crée une haine des Juifs d'une manière générale. Souvenez-vous de l'ex-basketteuse Émilie Gomis, oui, qui a quitté il y a quelques mois son poste d'ambassadrice des Jeux de 2024 après avoir été critiquée sur une publication Instagram à propos d'Israël. Eh bien, elle a cette fois récidivé en donnant son soutien à l'Iran. L'Iran a le droit de se défendre avec, en gros, afficher le drapeau iranien. Le message est très clair.
Elle ne s'est jamais intéressée aux femmes iraniennes. Jamais intéressée aux prisonniers.
Mais peut-être que LFI va lui proposer une candidature sur celle. Je ne sais pas si la liste LFI européenne est bouclée, mais elle aurait peut-être une place de choix.
C'est ce que j'allais dire, c'est assez croquignolet. Enfin, si ce n'était pas aussi tragique, ça serait drôle de voir toutes ces femmes tout d'un coup se découvrir un amour immodéré pour les mollahs. Ils doivent être drôlement contentes d'être soutenues par toute cette batterie de féministes autoproclamées qui se trouveraient très mal en Iran, je pense. Donc tout cela est assez grotesque. Moi, j'avoue que je suis quand même assez bêtise. Inquiète de l'état de l'enseignement supérieur chez nous. Et vous voyez, là, il faut que ce soit des politiques extérieures qui s'inquiètent de ce qui va se passer dans l'université. Mais l'université elle-même ne se saisit de rien, ne semble s'inquiéter de rien. Je remarque que quand des Sylvia Nagasinski ou autres voulaient intervenir à Bordeaux, l'université de Bordeaux disait « Ouh là là, on peut pas, pour des raisons de sécurité, on va annuler ». Là, ça ne dérange personne, peut-être parce que de fait personne n'agressera cette conférence, parce qu'il n'y a que l'extrême gauche qui agresse les conférences. Mais néanmoins, nous, toutes nos élites, entre guillemets, vous parlez de Sciences Po, mais on peut parler de Normal Sup, etc., sont gangrénées par cet esprit-là. Et on l'a laissé faire, on ne s'en est jamais inquiété.
Parce que c'est alimenté par ces gens qui se réclament du bien, de l'humanisme.
Oui,
de la
mais
gauche.
Pardon, mais je trouve même qu'au gouvernement, il y a une forme de complaisance extrême pour ceci. Moi, j'entends pas beaucoup Sylvie Retailleau s'exprimer sur ces sujets-là. Pardonnez-moi.
Léa Landman, un ou deux derniers mots encore et puis on va avancer parce qu'il y a d'autres sujets d'actualité que je voulais vous évoquer.
Je vous rejoins sur le point de 1948. En fait, et j'entends
la création
les débats
de l'État d'Israël.
Oui, la création de l'État d'Israël. J'entends même des débats en France sur des chaînes publiques où on parle de péché originel.
Ah bah surtout sur des chaînes publiques.
Oui, de péché originel, mais vous n'avez pas des gens qui puissent... C'est 3-4 personnes qui pensent pareil. Donc on parle de péché originel. Et j'ai commencé à regarder, et je n'arrive pas à trouver un débat sur un autre pays qui a eu son indépendance dans la même mouvance des années 40 et 50 et 60, qu'on remet en question de cette façon. On remet en question des politiques, très souvent, évidemment, mais on ne remet pas en question l'existence d'un État.
L'Ukraine,
Mais c'est pas dans un autre registre.
Et surtout, vous parlez des universités françaises. En fait, les universités françaises ont été, j'ai envie de vous dire... Elles s'américanisent.
Vous avez vu le Golden Gate Bridge ce soir? Adrien Fontenot en régie, je ne sais pas si on a des images à vous proposer. Regardez, petite parenthèse, une poignée de militants américains pro-palestiniens ont bloqué totalement cet après-midi la circulation sur ce fameux Golden Gate Bridge, qui est ce pont mythique que vous allez peut-être apercevoir, parce que là, je reconnais pas le pont en l'occurrence.
Non, c'est pas le Golden Gate.
Non, ça c'est pas le Golden Gate, je crois qu'on est d'accord, mais on va m'aider en régie, on va me dire quand on verra le pont. Là c'est à proximité, mais moi j'ai vu des images où on voit vraiment le pont qui est complètement saturé. En tout cas, sachez-le, à San Francisco, voilà ce à quoi on assiste, et c'est quelque chose, c'est un phénomène assez mondial. Hein.
Alors juste un dernier mot quand même, le rapport entre la politique israélienne et l'antisémitisme, évidemment, elle est bien répertoriée, mais en vrai, c'est contre l'idée même qu'une politique israélienne puisse intervenir ou puisse impacter tous les juifs du monde et que tout le monde trouve ça logique, en fait. Donc, si on est anti-israélien, on est antisémite. En fait, il y a un problème vraiment de logique interne. Et à propos de l'attaque iranienne aux États-Unis, on a vu des cris de soutien à l'Iran et des cris de mort aux États-Unis. Donc, en fait, encore une fois, ça rejoint la LFI à une grosse confusion morale.
Mais c'est surtout ça en dit très long, en réalité, sur le fait que beaucoup des gens qui prétendent soutenir la cause des Palestiniens ne se fichent en réalité éperdument des Palestiniens.
Ils comprennent rien,
Déjà, ils ne comprennent pas que les Iraniens sont chiites. Les Palestiniens sont sunnites, les Iraniens, en général, je peux vous dire que les relations entre les chiites et les sunnites, les Iraniens utilisent les gens de Gaza, ils les prennent pour des ploucs. ils en ont mais strictement rien à faire du destin des Palestiniens de Gaza. Et ils les lâcheront comme les premiers pecnos venus. C'est pas la même chose avec le Hezbollah.
C'est ce qu'est le Hamas pour l'Iran, exactement.
Là, ce sont des chiites au Liban. Mais vous verrez que ça se passera comme ça. Parce qu'en gros, c'est quand même, ils se considèrent réciproquement comme des infidèles. Hein. Mm-hmm. Donc, tous c'est les discours
sur... Et en fait, ça affaiblit la cause palestinienne, tous ces débordements.
Et ça affaiblit la cause palestinienne. Et tous ces étudiants, vous vous souvenez de ce sondage, ces étudiants américains, deux tiers d'entre eux, le fameux slogan de la rivière à la mer, deux tiers d'entre eux n'étaient pas capables de citer de quelle mer il s'agissait
et de quelle
rivière il s'agissait. Ouais. C'est vous dire si les Palestiniens, en réalité, ils ne les utilisent que parce qu'il y a des Juifs en face et que ça leur permet de défouler leur pulsion contre des Juifs.
Je voudrais qu'on conclue sur cette question pour parler le temps qu'il reste de cette émission de quelques autres sujets d'actualité. Je voudrais juste pour conclure que vous entendiez ce son, cet extrait sonore que l'on vient juste de recevoir, l'ambassadeur d'Israël à l'ONU qui compare l'ayatollah Khomeini à Hitler et l'Iran au Troisième Reich. Écoutez ça.
Le régime islamique d'aujourd'hui n'est pas différent du Troisième Reich et l'ayatollah Khomeini n'est pas différent d'Adolf Hitler. Le Troisième Reich d'Hitler était conçu comme un empire millénaire s'étendant sur plusieurs continents. Comme Khamenei envisage que son hégémonie chiite radicale s'étende sur la région et au-delà.
Bon, après des déclarations comme celle-ci, même si on avait déjà pas beaucoup de doutes, il ne fait aucun doute désormais que la riposte israélienne interviendra. Quel type de réponse, de quelle nature, de quelle intensité, ça reste une question. Ce qui est peut-être sûr, Léa Landman, et on peut peut-être l'expliquer à nos téléspectateurs, c'est qu'il y a les fêtes de Pessah qui vont commencer, qui sont importantissimes dans la religion juive. Pendant 7 à 8 jours, a priori, parce que c'est un moment sacré, il n'y aura pas d'offensive. Donc ça doit se passer juste avant ou juste après ?
Non,
probablement juste avant.
On n'en sait rien et je pense pas que ça va être pris en compte. Peut-être pas le jour de Pessah, mais ça pourrait être aussi une grande surprise. Franchement, je me baserai pas sur les fêtes de Pessah pour ça.
Bon, voilà ce qu'on pouvait dire ce soir à 23h24 sur la situation de ces tensions. Et bien sûr que les prochains développements seront cruciaux et qu'on continuera d'en parler ensemble. La cérémonie d'ouverture des JO sur la Seine aura-t-elle lieu ? Ça aussi, c'est une question qu'on se pose. Emmanuel Macron a assuré que d'autres scénarios étaient envisagés aujourd'hui face aux risques sécuritaires, notamment terroristes également. Godéric Bey vous en dit un petit peu plus et puis on en dit un mot.
Un projet démesuré qui mérite un plan B. Sur le chantier gigantesque du Grand Palais qu'Emmanuel Macron a visité ce matin, le président a pris du recul sur la cérémonie d'ouverture prévue sur les bords de Seine. Face à la menace terroriste, il a évoqué des possibilités alternatives et moins ambitieuses.
On va se donner les moyens de faire une très grande cérémonie d'ouverture. Si on pense qu'il y a des risques, en fonction de l'analyse qu'on fera du contexte, on a des scénarios de repli.
Emmanuel Macron a ensuite détaillé les deux scénarios envisagés.
On a une cérémonie qu'on prépare qui serait limitée au Trocadéro, par exemple. Mmh. Et donc on ne ferait pas toute la Seine si l'analyse permettait de...
S'il faut restreindre le lieu.
Exactement. Voire qui rapatrierait dans le Stade de France.
Même si l'option principale reste la priorité, le nombre de spectateurs bénéficiant d'une place gratuite pour assister à la cérémonie a déjà été divisé par deux, passant de 500 000 à 222 000 spectateurs.
Plan A, plan B, plan C, d'ici le 26 juillet, on ira jusqu'au plan Z. Est-ce qu'il a pris la mesure du risque, plus sérieusement, le président de la République ?
Non mais attendez,
selon vous.
On est en train de se coucher là sous la menace terroriste. On n'est pas capable dans notre
pays. On se couche, on rassure l'opinion. C'est peut-être de la politique aussi ce qu'a fait Emmanuel Macron ce matin.
Modifier une cérémonie d'ouverture de cette importance sous les yeux du monde entier au prétexte que peut-être il pourrait y avoir un attentat, c'est renoncer à tout. Hein. C'est le commencement.
Il n'a pas dit qu'il le ferait.
Oui, mais enfin, que le président de la République le dise déjà. Peut-être que si jamais on sent qu'on est un pays qui a peur, on est un pays qui se couche, on n'est pas capable de sécuriser un événement de cette importance.
Ben ouais, on n'a jamais fait une cérémonie comme celle-ci, on n'a jamais fait un événement comme celui-là, sur 6 kilomètres de fleuve, hein, je le rappelle.
Julien, on est la France. Oui, les Jeux Olympiques sont à Paris.
Ben, raison de plus pour passer au plan B, alors, si on est la France.
Non, on a un plan A qui est magnifique, il faut le maintenir et assurer la sécurité des Jeux. Et même avec un plan B, un plan C, un plan D, un plan Z, vous n'assurerez jamais le risque zéro d'un attentat.
Il a évoqué un plan B qui serait autour seulement du palais du Trocadéro et un plan C qui amènerait cette cérémonie directement au Stade de France. Il veut rassurer les Français ou il fait de la popole, comme on dit également ?
Non, mais surtout, il y a un moment où il faut se montrer humble. Bien sûr que tout le monde peut regretter la situation actuelle de la France qui ne permet pas de faire ce qui était prévu. Mais il y a le principe de réalité. Et vous imaginez si envers et contre tout, les diverses mises en regard des spécialistes, il se passait un drame, est-ce qu'il serait prêt à l'assumer ? Et puis je note que le président de la République prend conscience de quelque chose d'infiniment simple, mais qui semble aujourd'hui nous échapper, c'est que quand l'espace est clos, on sécurise plus facilement. C'est-à-dire que si vous faites ça dans un stade, eh bien, vous pouvez filtrer, vérifier, etc., que beaucoup plus que si c'est ouvert à tout vent. Donc ça devrait nous inspirer des réflexions, d'ailleurs, à l'échelon national pour nos frontières, évidemment. Donc,
mais la question va se poser jusqu'au dernier moment.
Oui, mais bien sûr, je pense qu'il tient à son plan, c'est évident, mais il y a un moment où il va peut-être devoir se rendre à l'évidence. Moi, pour en avoir discuté avec un certain nombre de responsables de l'organisation, de la sécurité, certains sont assez inquiets, c'est évident.
Tous inquiets, bien sûr.
Dernier mot.
Notamment pour ce qui concerne les attaques potentielles par drone, puisque ça, il n'y a pas beaucoup de réponses, j'ai l'impression, des autorités. Il y a un certain nombre de sénateurs, notamment, qui ont travaillé sur le sujet, qui n'ont pas obtenu de réponses convaincantes. Après, je comprends ce que dit Georges Fenech.
Ça sent un peu l'improvisation, quand même, tout ça.
Je comprends ce que dit Georges Fenech, mais peut-être que le péché originel, pour le coup, c'était d'avoir décidé ça. Parce que, effectivement, après que nous soyons en permanence en train d'en reparler, oui, c'est en quelque sorte faire le jeu des terroristes. Parce que personne ne mesure exactement. Par définition,
vous avez raison, le péché originel, c'est le caprice politique
le péché
de vouloir
originel,
faire cette.
C'était probablement en amont. Une fois que c'est décidé, oui, probablement, faut-il dire puisque c'est décidé, assurons la sécurité. Parce que la réalité, c'est que le terrorisme ne fonctionne pas que par des attentats, il fonctionne par l'effroi qu'il suscite, même par sa simple hypothèse.
Daesh avait menacé le match au Parc des Princes.
Oui, le PSG Barcelone.
Il aurait fallu interdire le match.
De toute façon,
mais il y a eu des forces de sécurité incroyables. Et encore une fois, Georges, on va conclure là-dessus. Mm. Mais un stade de foot, et vous le savez mieux que moi, mieux que personne ici, un stade de foot, c'est pas 6 km de Seine.
C'est pas la même chose à sécuriser.
Difficile à sécuriser, effectivement, un périmètre de Seine. Mais pour autant, moi, je serais triste, franchement, de voir qu'on renonce à notre grand JO et cette grande cérémonie.
Oui, mais le 26 juillet au soir, s'il y a eu, et on touche tous du bois pour que rien ne se passe, mais si le 26 juillet au soir, on déplore une attaque, on n'aurait jamais dû la faire.
Il y a tous les soirs, pardon Gabriel, je laisse toucher la parole, il y a tous les soirs avant le 26 juillet, et donc ne tendons pas des bâtons pour nous faire battre avec des terroristes en donnant l'impression qu'on n'est pas capable de résister à la menace.
Rendez-vous le 26 juillet, dirait le président de la République.
Dans un lieu confiné au Bataclan, il y a eu 90 morts. Que vous soyez à l'extérieur ou à l'intérieur, un terroriste peut toujours agir s'il échappe au radar.
Mais on n'est pas obligé de donner le bâton pour se faire battre. C'est ce que rappellent ceux qui veulent interdire, faire un plan B.
On a eu le marathon de Paris, on a eu...
Mais vous avez raison. Je ne suis pas en train de donner mon point de vue. Je vous dis franchement, j'en ai pas. 23h30.
Mobiliser des forces de l'ordre absolument phénoménales. Et pendant ce temps, ce sera...
23h30, l'essentiel de l'actu pour une petite minute avec Maureen Vidal. Et puis deux thèmes à suivre. Faut-il armer les policiers municipaux de France? Les Français disent oui à près de 60%. Et puis ce procès historique qui s'est ouvert à New York. Un procès pénal pour un ancien président américain. Que risque Donald Trump? Pourra-t-il se représenter? On va répondre à ces questions dans un instant. Maureen.
Le chef de l'armée israélienne, Herzi Halevi, promet une riposte à l'attaque iranienne. Dans la foulée, le porte-parole de Tsahal a affirmé tout faire pour protéger l'État hébreu. L'armée affirme que les victimes de la frappe à Damas étaient des terroristes agissant contre Israël. De son côté, Joe Biden a assuré vouloir éviter un embrasement au Moyen-Orient. Depuis hier, les alliés de l'État hébreu affirment ne pas vouloir d'escalade avec l'Iran. Nouvelle attaque au couteau dans une église à Sydney en Australie qui a fait 4 blessés. L'auteur des faits, un adolescent de 15 ans interpellé par la police australienne. À la suite de cet événement, des centaines de fidèles ont tenté de rejoindre l'église. De violents heurts ont éclaté, 2 policiers ont été hospitalisés, des véhicules endommagés et des jets de projectiles sur les forces de l'ordre. Un drame qui intervient 2 jours après une attaque qui a fait 6 morts dans un centre commercial de la ville. Enfin, nouveau record de chaleur précoce battu samedi en France. La chaleur s'est révélée exceptionnelle pour un début avril, avec une température moyenne atteignant 17,9 degrés Celsius, ce qui n'était jamais arrivé avant un 15 avril selon Météo France. Depuis plus de deux ans, les températures mensuelles du pays ne sont plus repassées au-dessous des normales de saison.
Incroyable. Et ce soir, il fait moins 10. Il n'y a plus de saison, ma bonne dame. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Merci, merci, chère Maureen Vidal. Selon...
Pas d'opinion.
Pardon d'apporter un petit sourire dans cette actualité particulièrement morose. Selon un sondage, on retourne à notre sérieux, la majorité des Français est favorable au port d'armes systématique pour les policiers municipaux. Regardez les chiffres de ce sondage, donc. C'est ça pour CNews. Ce sondage fait suite à l'attaque au couteau à Bordeaux la semaine dernière. Le maire de la ville, Pierre Urmic, avait certifié que l'armement létal de la police municipale n'aurait pas évité le drame. C'est un sujet qui suscite beaucoup, beaucoup de temps dans les différents conseils municipaux. Gérald Darmanin a donné son avis. Écoutez, ministre de l'Intérieur.
Je dis que chacun équipe la police municipale comme il l'entend. C'est l'article 72 de la Constitution, la libre administration des collectivités locales. Et en tant que ministre de l'Intérieur, si j'ai mon opinion politique, oui, je pense que les polices municipales doivent être armées. Dans les communes importantes, c'est un apport considérable et qui aide la police nationale et la gendarmerie nationale. Mais encore une fois, l'article 72 de la Constitution permet à chaque maire de faire comme il l'entend avec son conseil municipal.
Georges Fenech, les policiers...
Je ne partage pas tout à fait le même avis sur le plan juridique de M. Darmanin. C'est-à-dire, je pense que l'article 72 du Code des collectivités n'interdirait pas un principe général de notre pays en matière de sécurité, que toute forme de police municipale soit armée.
Il suffirait... Mais il le demande, ce que j'allais vous dire. C'est-à-dire que tous les policiers municipaux souhaitent être armés, parce qu'en fait, les policiers municipaux, policiers nationaux, ils ont les mêmes cibles dans le dos. Donc,
il ne faut pas la distinction, hein, les terroristes.
Certes.
Et s'il n'y avait pas eu de policiers municipaux à Nice pour Notre-Dame, qui ont neutralisé les terroristes, il y aurait eu plus de morts. Et si la policière de... C'était où? À Châteaurouge? Non, à Montrouge, avait été armée, elle aurait peut-être...
Clarissa Jean-Philippe.
Exactement. Qui est morte parce qu'évidemment, elle n'avait pas d'armes sur elle.
Exactement.
Aujourd'hui, à une police municipale...
Vous avez vu la scène surréaliste à Besançon la semaine dernière? On avait montré pendant ce conseil municipal un élu NUPES qui reprochait au chef de la police d'être venu en uniforme avec son arme de service.
Le drame de Nanterre.
Et qui avait rappelé le drame de 2002.
Mort.
Où un forcenet était entré et avait fait avec
moi,
une arme et avait fait
mort. La police municipale, elle devrait être armée, mais c'est vrai qu'en l'état actuel, c'est le maire qui décide.
Il faut changer les mentalités sur cette question, Gabriel.
Moi, ce qui me frappe, c'est que les mentalités ont déjà beaucoup évolué sur cette question.
Les mentalités de nos élus, hein,
oui,
je parle, vous aurez compris.
Élus,
là,
mais même,
parce que les Français ont compris. Hein.
Oui, les Français sont
ils
assez...
Ils élisent quand même les maires.
Non, mais très bien. Mais moi, je me souviens que quand Robert Ménard à Béziers avait parlé d'armer la police municipale, tout le monde l'avait quasiment traité de fasciste. Et aujourd'hui, il faut reconnaître que un certain nombre de maîtres se sont rangés à sa cause. Mais il reste une opposition très idéologique. Hein. Vous parlez du maire de Bordeaux. Quand son opposition dit, mais écoutez, les Bordelais aimeraient bien que la police municipale soit armée, on va faire un référendum sur le sujet ou une consultation, il dit, ah oui, mais ça, c'est du populisme. Voilà. Donc, en fait, en réalité, c'est maintenir une dissymétrie. Les délinquants sont armés, mais les policiers municipaux, eux, sont démunis ou ont un taser. Et c'est évidemment.
Non, après, le taser, c'est efficace pour neutraliser quelqu'un. Maintenant, il faut une courte distance, quelques mètres à peine.
Après, malgré tout, il y a des élections. Si les Français élisent des maires en général.
Oui, enfin, quand vous allez voter au municipal, Jean-Sébastien, vous n'avez pas forcément les 300 propositions du programme. Vous n'êtes pas forcément 300... en train de penser. Est-ce que ce maire-là va mettre les. Il y a des gens qui pensent que c'est la compétence de l'État. Il y a des gens qui pensent que c'est la compétence de l'État.
Comme à Villejuif, ou je sais plus, ou enfin bref, ou dans
les maires communistes, il y en a quelques-uns quand même encore dans ce pays.
Quand ils ne veulent pas de police municipale armée, ils le disent très clairement pendant les élections. Quand vous votez pour Pierre Urmic à Bordeaux, qu'est-ce que je voulais que je vous dise?
Il y a une sociologie. Pourquoi on ne donnerait pas cette prérogative à l'État et l'ôter aux municipalités?
Mais enfin, c'est la démocratie. Il y a quand même des gens qui ont le droit. Si moi, à titre personnel, je suis pour l'armement des polices municipales, c'est quand même la démocratie. Il y a quand même des citoyens dans ce pays qui ont le droit de voter pour des maires qui sont contre sur le territoire.
On peut imaginer d'avoir un règlement erga omnes, comme disent les latinistes, c'est-à-dire.
Rappelez-nous la traduction parce que je l'ai dans un coin.
Ça s'applique à tout le monde.
Erga unes.
Omnes.
Omnes, bien sûr.
Mais Georges,
j'ai fait grec.
Je comprends d'un point de vue juridique.
Je ne veux pas faire mon.
Mais in fine, et ça sera ce que vous constatez vous-même avec la justice, ça tiendra à la sociologie. C'est-à-dire à la sociologie de police municipale. Les maires décideront de ceux qui commandent leur police municipale. Donc, quoi que disent les règlements, les règles d'engagement. Le simple recrutement de l'encadrement des polices municipales sera fait en fonction de la coloration, de toute façon,
des mairies. On a compris, mais vous voyez, on parle des JO, de la sécurité. Les policiers municipaux de Paris ne sont pas armés.
C'est dingue.
S'ils étaient armés, on aurait davantage de sécurité. Et qui dit policier municipal armé, attention, formation, dotation, réglementation, ça ne se fait pas comme ça.
Vous savez ce que disent Et vous savez quel est l'argumentaire.
Vous faites élire un candidat. Non, non, mais je vous rejoins sur le principe. Je vous disais juste.
On leur donne pas une arme comme ça.
C'est la liberté des.
Les anti-armes. L'argument pour les anti-armes, les Landman, pour les municipaux, bien sûr, c'est dire il y a un risque d'escalade de la répression et la surenchère policière. Mais je veux dire, un policier armé ne fait peur à personne, à part à celui qui enfreint la loi ou qui a quelque chose à se reprocher.
Alors, évidemment, la réflexion que je me suis faite, comme ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé, en Israël...
Ah,
ouais. On y revient.
Ça va retomber sur vos pieds.
Ouais. Non, mais je voudrais dire quand même qu'en Israël, il y a énormément d'attentats terroristes qui ont été déjoués ou qui n'ont pas fait autant de dégâts parce que les policiers sont armés. Je vous parle pas maintenant de la population.
Après, est-ce qu'il y a un distinguo ? Je ne sais pas s'il y a un distinguo entre des policiers nationaux ou municipaux en Israël.
Il n'y en a pas, mais... Peut-être, mais si à Paris, les policiers ne sont pas armés, ils ne peuvent pas déjouer une attaque terroriste. Alors, il n'y a pas que des attaques terroristes, mais on parle de ça,
c'est
en
juste
fait.
Du bon
c'est
sens,
de là
en fait.
Qu'on parle.
C'est du bon sens.
Oui, et après, l'histoire de répression, ça, c'est au niveau politique, c'est pas au niveau de la police.
Bien sûr.
Voilà pour ce sujet. Les Jeux Olympiques, c'est dans 3 mois. Et a priori, il n'y aura toujours pas de policiers municipaux armés d'ici 3 mois dans Paris.
Ni de sapin de Noël à Bordeaux.
Ni de sapin de Noël à Bordeaux. Merci pour cette remarque, cher Jean-Sébastien. C'est un procès historique. C'est la première fois qu'un ancien président des États-Unis est jugé au pénal. Donald Trump était aujourd'hui attendu au tribunal de New York à Manhattan pour répondre d'accusations de fraude en marge de l'affaire Stormy Daniels, cette actrice X avec qui il a eu une liaison. Donald Trump va se défendre dans une affaire de documents comptables falsifiés remontant à 2016, année où il a battu Hillary Clinton et il est arrivé au bureau ovale. Retour sur ce dossier qui éclabousse désormais une nouvelle campagne, la campagne qui prendra fin au mois de novembre et qui verra s'opposer Joe Biden et Donald Trump.
C'est un procès historique. La première fois qu'un ancien président des États-Unis est jugé au pénal. Donald Trump est arrivé au tribunal de New York pour répondre d'accusations de fraude en marge de l'affaire Stormy Daniels.
C'est une attaque contre l'Amérique. C'est pourquoi je suis très fier d'être ici. C'est une attaque contre notre pays et c'est un pays qui échoue.
Retour sur ce dossier qui éclabousse la campagne présidentielle américaine 2024 et son candidat républicain. L'affaire éclate en 2018 lorsque l'ancienne star de films pornographiques raconte à la télévision américaine avoir eu un rapport sexuel avec l'ex-président 10 ans plus tôt. En 2016, Michael Cohen, ancien avocat du candidat républicain, verse la somme de 130 000 $ à l'actrice X en échange de son silence. L'affaire attire alors le regard curieux de la justice.
Il les a versés à Michael Cohen comme s'il s'agissait d'avances sur honoraires, mais ce n'était pas le cas. Il s'agissait en fait de rembourser l'argent qui avait été avancé par l'avocat. L'accusation est qu'il a falsifié les documents comptables de la Trump Organization.
Ce procès tombe en pleine campagne électorale, de quoi agacer le 45e président des États-Unis.
C'est un procès d'escroquerie. Si vous lisez tous les experts juridiques, tous les juristes d'aujourd'hui, je n'en vois aucun qui dise que c'est une affaire qui devrait être intentée ou jugée. C'est une escroquerie. C'est une chasse aux sorcières politiques. Elle se poursuit et se poursuivra à jamais. Nous n'aurons pas droit à un procès équitable. C'est très, très triste.
Ses fans, eux, lui sont toujours fidèles.
Quand, sans lui, le pays sera transformé, les gens diront ce qui se passe, ce n'est pas juste. Je leur dirai de se taire.
Le mania de l'immobilier est pour l'instant favorable dans les sondages, mais cette nouvelle affaire risquerait de le freiner dans la course à la Maison Blanche.
Jean-Sébastien, un premier mot. Premier ancien président des États-Unis à comparaître devant un tribunal, le premier à être inculpé dans une affaire pénale. Quelle qu'en soit l'issue, ce procès fera date dans l'histoire américaine ?
Oui, un premier mot déjà juridiquement sur ce que dit Donald Trump, parce que l'affaire de New York, il faut comprendre que oui, on peut poursuivre Donald Trump, mais que le procureur de New York a une interprétation extrêmement maximaliste en quelque sorte de la situation, parce que ce qui est prévu, c'est que vous n'avez pas le droit de maquiller les comptes, mais là ils en ont fait quelque chose de criminel, alors qu'en théorie c'est délictuel, mais le procureur de New York a considéré que dans la mesure où Donald Trump se présente à l'élection présidentielle, ça devenait criminel, ce qui est quand même juridiquement...
D'ailleurs le procureur qui est la cible de Donald Trump, qui souhaite absolument révoquer.
A beaucoup de contre-interprétations aux États-Unis. Après, c'est fascinant parce que les Américains, tout simplement, la Constitution américaine ne prévoit pas de situation comparable. C'est-à-dire, rien ne dit que même un Donald Trump en prison ne pourrait pas être élu. Ça n'est pas prévu par la Constitution.
Les sages américains qui ont rédigé cette Constitution ne pouvaient pas imaginer...
Il y a trois conditions pour pouvoir être élu président américain. Il faut avoir 35 ans, il faut être né aux États-Unis.
35 ans révolus.
Il a plus de 35 ans, effectivement. Être né aux États-Unis et avoir vécu plus de 14 ans
C'est sûr, parce que je crois qu'il y a une époque où on parlait d'Arnold Schwarzenegger qui pouvait éventuellement être...
Non, il ne pouvait pas, parce qu'il est né en Autriche. Arnold Schwarzenegger, il a plus de 35 ans, il a vécu plus de 14 ans aux États-Unis, mais il est né
en Autriche.
En Autriche, maintenant, quand même, ce qu'on voit dans le détail des sondages, c'est que les mises en examen, enfin, voilà, ou l'équivalent, n'affectent pas.
Au contraire.
En revanche, pour les indépendants, une condamnation, elle, pourrait l'affecter. Et ce qui est fascinant, c'est qu'il y a quatre affaires quand même, deux fédérales, une à New York et une en Géorgie.
C'est ça qui est fascinant pour nous depuis la France, Georges, c'est qu'il risque en théorie une peine de prison, mais ça ne l'empêcherait pas, même condamné, d'être candidat à la Maison-Blanche. Et vous l'avez dit, ça le renforce presque, puisque lui est en train de monter évidemment un argumentaire complotiste où il dit que c'est une justice politique, que le procureur veut faire de lui une arme.
Il en fait un argument de campagne, hein, et ça lui réussit bien à chaque fois.
On attaque l'Amérique.
Dans les sondages, il y a une décision déjà de la Cour suprême qui a censuré une décision de l'État de l'Oregon,
Du Colorado.
Du Colorado, pardon.
Et du Maine.
Et du Maine, qu'il avait rendu inéligible. Ça a été censuré par la Cour suprême. Je ne crois absolument pas qu'il sera empêché d'être candidat. Moi, je pense que tout cela, il en fait un argument de campagne aujourd'hui. Et je pense qu'il y a très, très peu de risques pour lui qu'il soit déclaré...
Il va plaider non coupable.
Même s'il le souhaitait, le Parti républicain ne peut plus changer de candidat.
En plus, oui.
Gabriel Cluzel et Léa Landman.
Non, mais déjà, vous avez raison de le dire, il retourne comme un boomerang cette affaire-là, quand il dit c'est l'Amérique qu'on attaque, parce qu'il se pose en martyr. Mais quand vous dites, oui, il érige une thèse complotiste, on a le droit d'imaginer, sans dire que c'est complotiste quand même.
Qu'on veut se payer sa tête.
Bah oui, évidemment, le juge, c'est pas non plus un enfant de cœur tout à fait dénué d'arrière-pensée. Donc, il est évident qu'il y a une part d'un tension politique et que Donald Trump met en avant. Mais vous savez, je crois que les électeurs américains, ils sont contre-fiches. Enfin, ces électeurs. Ces histoires de cœur, quand je parle de cœur, je suis gentille avec...
Ça commence par la même lettre, mais...
Ou naïve, voilà. C'est selon Gabriel.
Gentil et naïve. Ils s'en moquent complètement. Eux, ils ont le sentiment de l'effondrement de l'Amérique, de leur propre effondrement.
Ouais, ouais.
Donc tout ce qui peut arriver dans ce cadre-là, rien à cirer, si vous me permettez cette expression triviale. Et si je devais comparer ça avec...
Il pourrait faire ce qu'il veut,
en fait. Non, mais pardon. Non, mais dans des registres privés dans lesquels il est pris...
Après, attention, ce qu'il lui reprochait, c'est pas une liaison.
Non.
Ce qu'il lui reprochait, c'est pas une liaison, c'est d'avoir détourné l'argent de sa campagne pour rémunérer cette jeune femme contre le silence de cette dernière. Pardonnez-moi.
Je vais simplement faire une comparaison peut-être bancale, parce que c'est évidemment pas du tout le même genre d'affaire, mais à l'aune d'aujourd'hui, de l'effondrement de la France, de l'endettement, de tout ce qui est en train de s'écrouler dans ce pays, est-ce que vous pensez que le travail de Pénélope Fillon et du costume qui a été offert à François Fillon paraissent des bonnes raisons pour nombre de Français pour ne pas être élus? Vous voyez, donc il y a le sentiment
un parallèle
qu'il y a
un peu alambiqué.
Non, c'est peut-être pas tout à fait
juste Léa Landman dise un mot.
Du même sentiment
juste
pour les électeurs.
Une précision, je rappelle quand même que c'est dans cette affaire que son avocat a négocié une peine de 3 ans d'emprisonnement, si je ne me trompe, 3 ans ferme.
Alors ça, je n'ai pas en tête.
Donc c'est quand même, il y a une épée de Damoclès.
Son avocat précédent.
Mais je rappelle qu'un président en exercice...
L'avocat précédent, bien sûr.
Un président en exercice ne doit pas avoir à répondre devant la justice, même de faits antérieurs à sa prise de fonction. Donc s'il était réélu, la procédure devrait être mise entre parenthèses, durant les 4 ans de son mandat. Ah c'est... S'il était réélu,
non,
au moment où il est réélu, la procédure...
Il y a un grand doute juridique, parce qu'il faut distinguer les affaires fédérales...
En même temps, je vais donner la parole à l'air.
C'est ce que je vous disais, il y a les affaires fédérales, et ça c'est plus, et qui sont beaucoup plus graves, sur le fond quand même, l'assaut du Capitole, et le complot contre la démocratie, et ces affaires-là, effectivement, le gouvernement américain, parce que c'est l'État qui attaque Donald Trump, pourrait décider face à un président en exercice de ne pas poursuivre pendant son mandat, mais des affaires liées à des États locaux, l'État fédéral ne peut pas imposer à un État local, l'État de New York en l'occurrence, ou l'État de Géorgie, de renoncer à poursuivre un président même en exercice.
Léa Landman, votre regard en quelques secondes, s'il vous plaît, je suis désolé sur cette affaire.
En fait, moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'on voit une démarche vraiment populiste de la part de Donald Trump, puisqu'il s'inscrit vraiment dans une politique complètement populiste. Les États-Unis ne le sont pas, mais on peut vraiment voir D'ailleurs, Donald Trump, ces héros ou les gens qu'il admire, ce sont des gens comme Erdogan, comme Poutine, des leaders qui sont à la limite de la dictature. Donc en fait, c'est plutôt ça qui m'inquiète. Cette histoire de conspiration, etc., c'est plus d'avoir réussi à embarquer les États-Unis dans un truc comme ça. C'est ça le côté inquiétant.
Et on verra. Donc il y en a pour 6 à 8 semaines de procès.
Je veux pas mettre un pavé dans la mare, mais enfin, si on reparle du sujet qui nous a préoccupé au début, les accords d'Abraham, etc., Donald Trump ne s'est pas comporté comme un fou et n'a pas été le président épouvantable que...
C'est pas le plus va-t-en-guerre de l'histoire des États-Unis, non, ça c'est une réalité.
Malheureusement,
on poursuivra la discussion entre nous, si vous voulez, ou demain, autour de cette même table, je serai ravi de vous retrouver, mais il va falloir d'abord remercier Adrien Fontenot, Coralie Deleplace et Martin Mazur qui ont préparé cette émission, l'édition de la nuit qui arrive dans un instant sur CNews. Merci à tous les quatre pour ces débats et analyses passionnantes. Soir Info revient demain mardi. À demain, bonne nuit.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.